et que ça commence bien notre heure en musique. Et ça commence bien également parce qu'on va dire bonjour aux gens de Sherbrooke en Estrie, 107.7, en Outaouais, 104.7 et toujours dans le Grand Montréal au 98.5. Et celui que vous avez entendu brièvement, c'est Monsieur Sylvain Ménard qui est avec nous. Salut Sylvain.
Mes hommages, ça va bien?
Ça va très bien. Et là, on va s'intéresser cette fois-ci aux grandes premières, les premiers 45 tours d'artistes.
Les premiers enregistrements, ça peut être des démos, ça peut être des 45 tours. Là, ce que l'on entend là, c'est le 45 tours du groupe L'Infonie. Bon, ce que la pièce que l'on entend là, c'est une instrumentale. Ben, L'Infonie, c'était Walter Goodrow, c'était le Jazz Libre du Québec. Et c'est l'envers du 45 tours, l'affaire. Le titre de cette pièce-là que vous entendez là, c'est « J'ai perdu 15 cents dans le néfroid d'un ange bronzé ».
Qu'est-ce qu'il avait pris pour avoir un titre de même?
Je le sais pas, mais c'était des collaborateurs avec Raoul Duguay. L'Infonie avait participé, entre autres, à la Nuit de la poésie de 1970. Il officiait en tant qu'orchestre maison. Mais écoute ça, il y a quand même quelque chose là-dedans. Là. Bon, on peut aussi appeler ça une pièce instrumentale répétitive.
Avec le même rythme.
Et incantatoire. Oui. Imagine Raoul Duguay qui rentre avec une balloune sur la tête. Là. Bon, donc ça, c'est téléphonique.
Allô, allô, allô.
Là, je vais te proposer, tu sais, quand on parle des premiers enregistrements, évidemment, on revient tout le temps avec l'exemple d'Elvis Presley qui est allé à Sun Records pour enregistrer un petit 45 tours pour sa mère puis tout, et c'est là que tout a commencé. D'autres ont déjà fait des enregistrements justement pour impressionner leur famille. Et ça sonnait comme ça. Je te pose la question, de qui s'agit-il?
J'ai aucune espèce d'idée.
Bon, c'est les Quarrymen. Ben, les Quarrymen éventuellement deviendront les Silver Beatles et les Beatles. Ça, c'est 1958. John Lennon, Paul McCartney, George ainsi que deux amis qui ont payé 40$ pour enregistrer leur version de That Will Be the Day de Buddy Holly. Bon, c'était pas parfait, disons.
Non, mais...
L'intention était là.
Il faut commencer quelque part.
Ben, faut que je te raconte. Il y avait eu un exemplaire de cette pièce-là, That Will Be the Day. Et les cinq membres du groupe avaient comme pacte de se prêter le disque pendant une semaine, chacun, pour les faire écouter à leurs amis. Et le dernier qui a eu le disque en main, c'est un pianiste, c'est Duff Lowe, qui, lui, a gardé le disque pendant 23 heures parce qu'il était rendu le cinquième. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a voulu le mettre aux enchères et Paul McCartney a été mis au courant. Ça fait que Paul a acheté le disque.
Ah, et on sait combien?
Et mais ce disque-là, s'il sortait sur le marché, là, c'est 200 000 $ minimum.
Ah,
là,
ouais,
là.
Ouais.
Mais c'est ça, ça a apparu sur l'anthologie en 1995.
Ah.
Bon, c'est ça. Ceux qui connaissent les Beatles qui aiment bien ça, là, c'est pas une surprise pour eux autres. La prochaine va peut-être être une surprise, par exemple, pour toi comme pour les autres. Identifie le chanteur. Belle petite voix, une voix de pinson. C'est la voix de Jerry Boulet.
Pas vrai.
Jerry Boulet du temps des gants blancs. Ça sonnait comme ça. Bon, c'est avant l'alcool et les nuits folles, comme dirait l'autre. Du temps des gants blancs, Jerry a enregistré quelques 45 tours. Ça, c'est pas le premier premier. Le premier premier, on,
il
n'existe
pas.
Le titre de cette pièce-là, c'est « Tu veux revenir ».
C'est bon. C'est à l'époque.
Oui, c'est un orchestre de danse, les gants blancs, puis ils étaient très bons aussi. Ensuite, ils sont devenus, eux autres, la septième invention. Après ça, l'opéra pop d'Offenbach, et finalement, Offenbach et Jerry. Mais c'est la voix de Jerry dans le temps.
Toute douce.
Oui. OK, on continue notre voyage dans le temps, puis notre voyage tout court, on s'en va ailleurs, en écoutant du ska. Là, identifier l'individu. Bon, lève-le, le petit gars. Un indice, ça a été enregistré dans un studio de Kingston, en Jamaïque.
Ah, ben oui, ben là, ça nous donne une idée, là.
Bob Marley, ouais. À l'âge de 16 ans, Judge Nut. Ce qui est drôle, c'est qu'on sent les voix qui sont pas matures du tout, mais tu reconnais un petit quelque chose.
Oui.
Puis.
Oui, mais t'as une petite intonation.
Il y a un petit quelque chose de. Oui. Ça pourrait être le fils de Bob Marley.
Oui.
Bon, ben c'est ça, c'était lui. Le reggae est arrivé dans la vie de Bob Marley en 70 à peu près. Ça, c'est 1962. On remonte dans le temps encore, puis là, on revient plus près de chez nous. Tu vas voir, avec l'accent, on peut pas se tromper. ça a déjà été entendu, là, mais bon, pour la forme.
Aujourd'hui est une triste journée. Ma femme, elle est morte ce matin.
Non, ce n'est pas Georges Brassens.
C'était gay.
Non, ça, c'est le chanteur du groupe Les Montagnards.
Ah, oui.
C'est le... Oui, oui. Oui, c'est un gars. C'est Claude Dubois.
Ah oui.
À l'âge de 12 ans. Série de l'album Stampede canadien de 1959, Claude Dubois et les Montagnards. Ça a été enregistré sur la scène d'un cinéma pendant un après-midi. On fait ça vite, vite, vite. Le texte est bon, hein, tu sais, faire chanter ça à un enfant de 12 ans.
Ben oui,
aujourd'hui est une triste journée. Ma femme est morte ce matin. Pauvre petit gars, ça part mal dans la vie. 12 ans, déjà veuf.
Il est traumatisé.
C'est ça. Donc, on continue. On va rester dans la même zone, à peu près le même âge. Voilà le prochain. Il a 11 ans et il s'appelle Little Stevie Wonder. Oui, premier 45 tours de Stevie Wonder. I call it pretty music, but the old people call it the blues. Et c'est lui qui joue de l'harmonica.
Ah,
qui est fantastique, ça. Un des premiers disques de Stevie Wonder, le titre, c'était Tribute to Uncle Ray, vu sa cécité et le fait qu'il portait des gros verres fumés parce qu'il était aveugle. On a voulu inventer une histoire comme quoi il était le neveu de Ray Charles. C'est tout à fait faux.
Mais oui.
C'est ça. Donc, son deuxième album s'appelait Tribute to Uncle Ray, un hommage à Oncle Ray, ce qui avait aucun bon sens.
Il s'est organisé pour aller chercher.
Mais déjà, à ce moment-là, Stevie Wonder, à 11 ans, était multi-instrumentiste. Il jouait de la batterie.
Ah, mais c'est un talent fou, là.
Alors,
ah,
lui, ouais, il était parfait. 11 ans, écoute ça. Et on continue. On se déplace. On se déplace. On reste aux États-Unis. Lui aussi, il va être difficile à reconnaître, je te le garantis. Bon, la voix de cet adolescent que l'on présume plein de boutons, c'est la voix de Bruce Springsteen avec son groupe The Castiles. Bruce, qui est âgé de 16 ans, est en 1966.
Bon, c'est clair que la différence avec la voix actuelle de l'homme, c'est clair, à 16 ans,
oui.
T'as pas encore tout à fait mué, là. Il manque un petit peu d'expérience, puis le petit grain dans la voix.
On
là.
Est loin de « We are the world », bon, c'est ça. Springsteen, dans le temps, avec son groupe, le bassiste était âgé de 42 ans, lui en avait 16. Oui, c'est des gars du New Jersey, hein.
Ah, oui.
Ouais, on prend ce qu'il faut. Avec... Du moment que t'as un amphi, t'es dans le groupe, là. Donc, Bruce Springsteen, The Castiles. 7 exemplaires de produits. Bruce en possède 2, et puis il y en a 4 autres là, qui sont disparus. Ça fait que, voilà, pièce de collection sur un album récent, d'ailleurs, de Springsteen. Bon, là, on revient ici. Tu vas voir. Ça, c'est un petit peu plus facile. Évidemment, c'est une adaptation d'I Saw Her Standing There des Beatles. C'est Bruce Huard, le premier 45 tours des Sultans, toujours devant moi.
Je l'aperçus me regardant, je me suis dit quel bel enfant.
Les Sultans, pendant quelques années, se disputaient le titre de meilleur groupe au Québec. Est-ce que c'était les Classelles, les Oulops ou les Sultans? Le mystère reste entier.
Les choses certaines, Bruce Huard, il y a bien des filles au Québec qui étaient en amour avec lui.
Ah non, mais il était parfait.
Ah oui, écoute, avec la petite
petite
côté, là.
Il était vraiment parfait. Donc, les Sultans, ça a commencé comme ça. Eux autres qui tripaient pas vraiment sur le fait de refaire des chansons, de faire des adaptations. Ben, coudonc, là, il fallait ce qu'il fallait. Le premier 45 tours des Sultans, 1964, sur étiquette Fontaine, le numéro de série pour les intéressés, F1606. Si vous le trouvez, appelez-moi. Je vais tomber sur le dos. Bon, OK, on continue. Non, ce ne sont pas les Everly Brothers.
Ça aurait pu, ça ressemble quand même pas mal.
Ah oui,
ouais.
Totalement. Non, c'est Tom and Jerry. Qui, éventuellement, ont fini par trouver un autre nom, Simon and Garfunkel.
On connaît pas mal plus.
On est loin du Sound of Silence, par exemple. Hein? Les gars, avec 15 ans, ils sont quand même montés dans les palmarès avec cette chanson-là. 49e position au Billboard. Ils se sont séparés peu de temps après. Ils se sont retrouvés plus tard. Puis entre les deux, Paul Simon a continué à faire carrière sous le nom de Jerry Landis. Alors que Art, lui, était en beau tabarouette parce qu'il avait pris une pause commune. En principe, il arrêtait. Puis ça n'a pas viré comme ça.
Ils
s'en sont voulus encore à ce jour. Art et Paul Simon, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Il y a toujours une petite chicane entre les deux.
Il y a toujours quelque chose. Et la prochaine, Sophie, la momie. Bon, on s'explique.
Ma meilleure amie, jamais ne sourit. Les copains l'appellent Sophie, la momie.
Bon, Sophie la momie, c'est pas le premier 45 tours de Michel Richard, mais c'est sur son premier album, Michel Richard Twist. Elle est âgée de 15 ans. L'histoire de Sophie la momie, je vais te raconter ça dans un instant.
Si un gars l'invite à danser le twist, Sophie la momie
danse le twist. C'est quoi son problème à Sophie la momie? C'est que c'est une bonne amie de Michel dans la chanson. Et elle s'appelle Sophie, mais elle a l'air bête comme un gant de boxe. Ce qui fait que c'est les gars du coin qui ont dit « Ah, ah, elle, on va l'appeler Sophie la momie parce qu'elle a l'air bête. » Voilà. Donc, il y a une histoire très triste derrière ce twist-là de Michel Richard. Elle avait 15 ans. Les premiers 45 tours de Michel Richard, c'est un peu plus tôt que ça quand elle travaillait avec son père, le légendaire Tiblan Richard. Ben c'est ça. Donc, on continue notre voyage comme ça dans le temps.
Avec le petit accent de Michel Richard à l'époque aussi, ma mère.
Ah ben oui, la mère.
Ma mère. Sylvain Ménard reste avec nous. Encore plein de suggestions et de belles trouvailles musicales après la pause.
Kiss me once, oh yeah, baby. Kiss me twice, oh yeah, crazy. Kiss me three times, the three kisses of love, oh yeah.
Chanson qui donne envie de s'embrasser. Sylvain Ménard, qui est de retour avec ses belles trouvailles musicales dont nos artistes...
Oui. Moi, ça me donne envie de danser la claquette.
Bon, ça, je te vois faire ça, d'ailleurs.
Oui.
Beaucoup.
Oui, avec un bon charge.
Ben oui.
Bon, les trois belles voix que vous entendez là, il y a un grand et deux petits. Ce sont les Bee Gees. Avec les deux petits jumeaux en arrière.
Mais la voix un petit peu moins aiguë quand même, hein? On les a connus un petit peu plus...
Il n'avait pas encore trouvé, là. Non, c'est ça, de Saturday Night Fever. Ça, c'est Three Kisses of Love. Barry Gibb est âgé de 16 ans. Les jumeaux ont 13 ans, Robin et Maurice. C'est le premier 45 tours. C'est une composition de Barry Gibb lui-même. Il était âgé de 12 ans quand ce fut écrit. Et 4 ans plus tard, ça donnait ça. Ah, mais ça donne envie, effectivement, de gambader en plein soleil.
Il fait beau, il fait chaud.
Pieds nus dans l'herbe.
On écoute ça même dans la voiture aussi.
Pieds nus dans la voiture. Oui, bon, on continue. Là, on va aborder, une tendance un petit peu différente. La voici. Là, il faut être attentif à la guitare. Ce jeu de guitare qui semble être des spasmes de peintre, c'est-à-dire l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de faire une toile, là. Ben, c'est les Isley Brothers que vous entendez là avec Jimi Hendrix à la guitare.
Oh.
On est en 1964, Jimi Hendrix vient d'être engagé par les Isley Brothers, qui ont déjà une histoire, eux autres. Twist and Shout, l'original, c'est les Isley Brothers. Donc, on est en 64, Jimi Hendrix vient tout juste de sortir de l'armée. Jimi Hendrix était dans l'armée américaine. Il venait d'être réformé et il jouait de la guitare pour passer le temps. Mais déjà, ça t'entend le style d'Hendrix. Ce qui nous convainc d'ailleurs que c'est Jimi Hendrix, c'est que t'as l'impression d'entendre deux guitaristes alors qu'il y en a qu'un. il fait la rythmique puis il fait la guitare solo en même temps. C'était un talent hallucinant. Ouais. L'autre, la prochaine, ça, c'était un petit peu plus particulier. Écoute l'harmonica. La pièce, c'est Midnight Special, telle que chantée par Harry Belafonte, que l'on va entendre là. Mais à l'harmonica, en arrière, c'est le jeune Bob Dylan.
Bob
Dylan, oui, âgé de 20 ans à ce moment-là. C'est son premier engagement professionnel. Il avait reçu 50 $ pour sa participation à l'harmonica.
Quand même pas si mal.
Quand même pas si mal, mais écoute la suite des choses. Bon, Bob Dylan, tout à fait honoré d'être convoqué pour une séance d'enregistrement, d'être payé pour. Sauf qu'il n'a pas aimé le travail de studio, donc il était censé faire l'album d'Harry Belafonte au complet. Il a sacré le cœur après une chanson, celle-là. Avec le 50 $. Mais c'est ça, tout Bob Dylan était déjà là.
C'est ça, ça y ressemble.
Ah, Monsieur Compromis, c'était pas lui. Un peu plus tard, il livrait lui-même son premier album solo. Et bien, le reste, comme disent, and the rest is history. Mais Bob Dylan, la première fois qu'on l'a entendu sur un disque, c'est là, à l'harmonica.
Et avec le mariage d'Harry Belafonte, on n'aurait pas pensé à ça. Les deux Bob Dylan, c'était pas le même genre de musique, mettons.
Ah non, ben Bob Dylan avait trouvé Harry Belafonte tellement fatigant, c'est-à-dire, il était très pointilleux, puis si ça marchait pas, on recommençait. Bob, ça n'a pas fait son affaire du tout, se faire dire à peu près 35 fois, on va la reprendre, là. Fait que après cette pièce-là, il a sacré le cœur.
Finito.
Oui, c'est ça. C'était le début. Ça rappelle la fin de la carrière de Bob Dylan. Et non, c'était Bob. OK. Là, une autre participation étrange. Écoute ça. La grosse guitare est épée.
Il a le front rond comme une ampoule.
Là, on a l'impression de reconnaître Jim Corcoran. C'est tout à fait lui. Jim Corcoran, Bertrand Gosselin. C'est leur premier 45 tours. C'est comme Chartrand. C'était un duo folk, Jim et Bertrand. Et leur gérant de l'époque était convaincu que ça ne jouerait jamais à radio, justement, parce que c'était un petit peu trop folk, leur affaire. Donc, il a décidé d'ajouter la guitare de Gilles Vellicat là-dessus. Et Gilles Vellicat a été appelé en renfort après l'enregistrement de cette belle chanson folk comme Chartrand.
Pour ajouter la guitare.
Ajouter de la guitare. Disons qu'on peut appeler ça en chinois un clash musical.
Un petit peu quand même.
Mais c'est une très bonne pièce, comme Chartrand.
Comme Chartrand.
Je me souviens d'avoir vu Jimmy Bertrand dans le temps à Jeunesse d'aujourd'hui. Ça jurait un peu.
Avec l'époque yéyé, tout ça, là, ouais.
Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'était un hommage à Michel Chartrand, évidemment. Mais avec la guitare de Gilles Vellicat, je fais... C'était un petit peu particulier. OK, on continue. Là, on va changer de style, mais complètement. Dans un temple baptiste. Et oui, c'est un album de 1956 mettant en vedette la jeune, la très, 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 très jeune Aretha Franklin.
Et déjà avec une voix.
À la voix et au piano aussi.
Ah.
Écoute la perfo. On dirait que c'est Marilyn Jackson. Le père d'Aretha Franklin était pasteur baptiste. Et aussi gérant, comme quoi on peut mêler l'utile à l'agréable, le mystique à l'économique, tout ça. Et puis, il lui avait fait enregistrer un album à l'âge de 14 ans. Aretha Franklin, il y a trois étapes à sa carrière. La première, très gospel, très religieuse. Ensuite, début des années 60, jeune chanteuse qui était sur le point d'éclore. Et bien après ça, 1967, respect, tout ça. Mais écoute la voix, là.
Du cœur.
Oui.
Mais
déjà à ce moment-là, elle avait été, elle était sous surveillance. Berry Gordy de Motown était sur le coup. Sam Cooke était sur le coup aussi. Et voilà.
Quand t'as un talent comme ça, évidemment, tu veux l'avoir dans ton écurie, ça c'est clair.
14 ans.
Ouais.
Je pense que le monde aimait ça dans la salle. Bon, la technique d'enregistrement est peut-être un peu discutable, par exemple.
On peut comprendre les.
Je comprends.
Les moyens techniques, hein?
Je comprends pourquoi que Berry Gordy voulait s'en occuper pour l'enregistrer comme du monde. Bon, OK, là, on va écouter un démo étonnant. Tu vas reconnaître l'artiste sans problème.
Ah,
c'est Serge Fiori,
ouais, ben
oui. C'est Harmonium, mais c'est Harmonium en duo. Là, c'est Fiori et Michel Normandeau, c'est avant Louis Valois. Premier démo d'Harmonium en anglais, Little Lady of Mine. Et ça donnait ça. Déjà, tout Harmonium est là, par exemple.
Ouais.
Le son est là.
Avec les harmonies aussi qu'on reconnaît d'Harmonium.
Ah oui, tout à fait.
Ouais.
Harmonium, leur gérant du temps, qui s'appelait comment? Yves Ladouceur, était convaincu que ce groupe-là avait un potentiel, mais qu'il devait chanter en anglais pour retenir l'attention des radios. Ce qui fait qu'il avait envoyé ce démo-là aux radios. Il n'avait pas eu un gros succès, mais ça s'est retrouvé dans les principales compagnies de disques au Québec et personne ne voulait signer ça. Parce que c'était justement le début des années 70, très nationaliste, un duo en anglais.
En anglais.
Ben, faut dire que Serge Fiori est parfait bilingue. Bon. Ce qui fait que la première compagnie qui a manifesté de l'intérêt, c'est Quality Records en Ontario. Et le premier album, Harmonium d'Harmonium, a été fait sur Quality Records. Mais c'est à partir de ça que l'intérêt a fini par monter. Mais on reconnaît Harmonium.
Oui, puis l'intérêt se poursuit aussi avec le Cirque Éloise, et on l'a vu avec le spectacle Hommage à Fiori.
C'est bon.
Ah, magnifique.
C'est bon. Oui. C'est une musique qui vieillit merveilleusement bien. Surtout dans le cas, ben là, du Cirque Éloise, pendant qu'on y est... Là, le travail qui a été fait par Louis-Jean Cormier puis tout le monde là-dessus, des gens qui ont compris Harmonium.
L'essence.
Qui sont capables d'aller plus loin
oui.
avec ce corpus-là, c'est ce que ça donne. Bon, OK. Maintenant, ça, c'était la minute information éditoriale. On continue notre voyage. Ça, c'est un gros succès.
Oui.
Un gros succès. Mais encore là, la voix du gars peut être étonnante. C'est Michel Pagliaro, le petit papy. Alors voilà, c'est pas Michel Pagliaro, c'est les chanceliers. Michel Pagliaro était le chanteur des chanceliers. Là-dessus, il y a 18 ans, il s'est joint aux chanceliers en tant que bassiste, ensuite guitariste. Puis là, bon, le chanteur est parti, puis c'est lui qui a pris sa place. Le petit papy, 1966. 22 ans plus tard, Michel Pagliaro enregistrait son dernier album studio en 1988. Et depuis ce temps-là, on attend un prochain album.
On l'attend, il est en écriture.
Ça fait 31 ans, comme c'est ça. Mais il est toujours actif.
Oui.
Il donne des spectacles comme c'est pas permis. Comme quoi, on n'a pas toujours besoin d'un album à promouvoir pour faire des spectacles, pas du tout.
Oui.
Mais ça, c'est la version de « I'm your puppet ». Gros succès. OK, on remonte dans le temps. Toi, t'es jeune, t'as pas connu l'Empire des futurs stars de C'est quoi?
Je l'ai connu, l'Empire des futurs stars. Tout à fait, mon cher.
Mais vous étiez jeune,
vous? J'étais très jeune.
Ça, c'est le groupe gagnant de l'Empire des futurs stars 1987, le groupe Volt, avec la chanteuse Lise Jalbert, ensuite appelée Laurence. Elle avait de la voix. Déjà, tout était là, elle aussi. Musicalement, je ne suis pas sûr qu'elle serait restée à ce niveau-là, par exemple. Ça sonne un petit peu plus comme les groupes des années 80 avec les synthés.
Et je me souviens de Laurence Jalbert, d'ailleurs, lors de la finale avec le Toupette en soleil, qui était l'époque aussi, l'habillement des années 80 également. Puis ça, c'est une de mes chansons préférées quand j'étais jeune.
Madame, je me souviens quand la première fois qu'elle avait visité Michel Bélanger chez Audiogramme, on travaillait dans ce bureau-là, nous autres, puis on l'avait vu arriver, on s'était dit « C'est qui elle? » Tu sais, puis c'est ça. Après ça, on est devenus bien amis. C'était Laurence Jalbert qui arrivait.
Tellement de belles voix.
Elle s'appelait Lise dans le temps. Ah, avec les petits... la guitare.
Oui, c'est en plein ça.
Ah, ça fait peur. OK. Dernier, ça, c'est une devinette. Tu connais la pièce? Stand by me. De Benny King, mais c'est pas Benny King. Là, faut trouver c'est qui. Ça s'en vient. Tu sais, l'intro de cette chanson-là...
On la connaît, ouais.
Ça finit plus de finir. Et voici le chanteur. When the night has come and the land is dark. Version très collée sur l'original. Oui, c'est Cassius Clay qui, par la suite, a pris le nom de Mohamed Ali. Cassius Clay qui avait enregistré la chanson Stand By Me et c'était sur son album I'm the Greatest, évidemment, 1963. 63, je pense, 64.
Mais il avait une belle voix, quand même.
Tout à fait. Il pouvait tout faire.
Ben oui.
En voulez-vous de la belle zizik en v'là?
Tellement de belles trouvailles. Et là, j'ai reçu plusieurs courriels d'auditeurs. On va mettre ça sur le site Internet parce que c'est franchement, vrai. Ça vaut la peine. Et vous pouvez réécouter d'ailleurs le segment de Sylvain Ménard, soit au 104.7, 107.7 ou encore 98.5. Merci Sylvain Ménard. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plein de belles musiques à redécouvrir.
Une autre thématique spéciale. Salut!
Salut! Salut.